Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand de Mémorialiste.fr avec Fanny de Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Arthur Caillot, l'ado accro au livre. Alors c'est la rentrée littéraire des voix du livre dans les studios de Bac FM, enfin, et ça fait plaisir. Alors une rentrée un peu perturbée quand même, puisque nous devons être seulement deux à chaque fois dans le studio pour respecter les règles de sécurité. Et je suis donc avec Arthur Caillot. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
L'ado accro au livre, toujours aussi accro en cette rentrée littéraire. Alors Arthur, pas facile de choisir parmi toutes les publications de la rentrée?
Alors non, surtout que pendant 6 mois, j'ai lu au moins une centaine de romans. Donc j'ai dû choisir vraiment mes deux coups de cœur vraiment exceptionnels, quoi.
Donc là, on est vraiment sur la crème de la crème.
Des 6 mois, ouais.
Tu nous as sélectionné 2 pépites.
Ouais, alors j'ai d'abord sélectionné Âge tendre de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane, qui va nous faire plonger au cœur des années 70. Et Une bouteille à la mer de Lénia Major aux éditions Slalom, qui ont refait leur ligne éditoriale. Et on va voyager du côté de l'île d'Ouessant avec ce roman.
Magnifique, donc voilà. On voyage là, hein. Ça va nous faire du bien. Un petit peu d'air frais, un petit peu d'air marin.
Pour s'évader.
Alors on est parti.
Alors Clémentine Beauvais, vous connaissez?
Ah ben oui.
Eh ben, c'est une autrice française extrêmement talentueuse qui a déjà écrit de nombreux romans traduits dans plusieurs langues. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Les Petites Reines, qui raconte l'histoire de 3 filles en surpoids qui ont été élues, je cite, boudin de l'année sur Facebook et qui vont rallier Bourg-en-Brest à Paris en vélo. Vous connaissez?
Oui, parce que ça avait été cité dans je ne sais plus quelle émission sur la grossophobie.
Ah ouais?
Oui, comme exemple de manière de traiter justement du surpoids, de la corpulence, de manière respectueuse et drôle à la fois.
Et comique, ouais. Bah, moi, j'ai réussi à convaincre ma prof de français de le lire, donc.
Bravo.
Et, ou alors, elle a aussi écrit Songe à la douceur, qui est écrit en vers libre. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter son nouveau roman, Âge tendre, qui m'a fait passer un moment mémorable. Je crois que c'est devenu mon préféré de l'autrice, c'est pour vous dire. Je vais vous lire la première page pour vous mettre dans le ton du livre, vous allez voir, c'est très original. Service civique obligatoire. Tous les jeunes Français et toutes les jeunes Françaises seront tenus d'effectuer une année, 10 mois de service civique obligatoire, SCO, entre l'année de 3e et l'année de 2e. Ou une année, 10 mois de service de préparation au métier des armées. Ceci afin de préparer chaque citoyen et chaque citoyenne de la nation à sa future orientation, son employabilité, son professionnalisme et ses compétences interpersonnelles. Rapport de service civique obligatoire. Valentin Lemonnier. Longueur. 378 pages. J'ai dépassé. Quand les résultats sont arrivés et que j'ai vu que j'avais eu santé dans les Hauts-de-France, mes impressions n'ont pas été très positives. Alors, ça a de quoi faire rire, puisque Valentin a dépassé de plus de 300 pages quand même son rapport de stage, qui devait faire 30 pages à la base.
Il était très inspiré, ce garçon.
Oui. Alors, vous voulez savoir où il a été envoyé en stage?
Ah bah oui, évidemment.
Alors, dans un village Alzheimer pour s'occuper de personnes âgées atteintes de démence.
Ça commence fort. Hein.
Bien entendu, ses impressions ont été très négatives au début. Hein. Mais peu à peu, ses impressions vont passer à très positives. Il va beaucoup s'attacher aux pensionnaires de l'unité, surtout Madame Laurel, à qui il va promettre un concert de Françoise Hardy en personne, alors qu'on est dans les années 2030. Donc seulement, Madame Laurel veut la Françoise Hardy des années 70, donc il va devoir trouver un sosie.
Et c'est là que tout commence. Et c'est voilà. Là que ça devient vraiment chaud et drôle aussi à
et
la fois.
Et très drôle et super attachant. On découvre le quotidien de ces maisons, qui ont commencé à se développer d'ailleurs. Et c'est vraiment très très intéressant. Et
oui, en parce plus, que c'est quand même une thématique qui est à la base un petit peu lourde, un peu délicate,
oui.
Mais elle en fait quelque chose d'à la fois drôle et de très humain.
C'est un peu le talent de Clémentine Beauvais.
Exactement. Elle réussit à faire passer des choses très graves.
Avec Le Petit Train, oui. Justement, qui parle de grossophobie, mais d'une manière très drôle et pas du tout choquante.
Exactement, ce qui est quand même un tour de force.
Donc, dégoulinant d'humour et de tendresse, Âge tendre va vous faire passer du sourire aux larmes. Vous risquez de voir des fleurs aux couleurs psychédéliques en vous endormant le soir et de devenir vraiment très accro à Françoise Hardy. Si vous êtes curieux, je vous conseille écouter Message personnel, qui est une magnifique chanson, ou encore Tous les garçons et les filles et Comment te dire adieu.
Je vois que tu as parfaite la culture musicale des années 70.
Je connaissais pas spécialement avant Françoise Hardy et maintenant je suis devenu accro. Enfin, Valentin, c'est un personnage hyper touchant, mignon, qui va beaucoup évoluer pendant l'écriture de son rapport de stage. Lui-même va faire des notes rétrospectives sur ce qu'il avait dit, soit pour expliquer, soit pour avoir un regard critique sur ce qu'il avait écrit. Il me rappelle beaucoup, moi, à mon âge, justement, et j'ai d'autant plus réussi à m'identifier à lui. Hein.
Il te rappelle, toi, à ton âge.
Ouais, à son âge.
Oui, peut-être. Je sais pas.
Bah non, mais j'étais aussi un peu... Bah quand je regarde ce que j'ai fait il y a 2 ans, je trouve ça nul, alors que c'était pas nul, parce que c'était avec mon âge de l'époque.
Bah
et
oui.
Du coup, c'est très drôle de voir son évolution. Bref, du coup, je vous conseille à 1000% ce roman. Vous m'en direz des nouvelles. Il vous tente, Claire ?
Ah bah oui, bien sûr. Évidemment.
Alors, maintenant, le deuxième roman est tout aussi bien, mais totalement différent. Il est très, 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 très émouvant. Quand je l'ai lu, j'avais le sourire aux yeux et les larmes aux lèvres. Jolie métaphore, n'est-ce pas ?
Grande forme, Arthur, à la rentrée littéraire.
Ah bah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de radio.
Oui. Bien.
Alors, c'est pour vous dire, c'est un ascenseur émotionnel qui m'a totalement chamboulé. Une bouteille à la mer, c'est un roman épistolaire où deux adolescents n'échangent que par mail. Axel va trouver une bouteille à la mer avec un message dedans, envoyé par Charline, avec son adresse email. Il va lui écrire et leurs échanges vont être pleins d'humour et de tendresse. Mais, soudain, le drame. Charline va apprendre qu'elle a une leucémie et qu'elle a très peu de chances de s'en sortir. Avec ce père absent et cette mère stressée, heureusement que Charline peut compter sur Axel pour la faire rire même dans les pires moments. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer l'autrice. Et je vous conseille d'aller voir mon interview sur mon blog L'ado accro au livre.
Un excellent blog, je le dis en passant.
Merci. Et je voulais vous partager une de ses réponses. La voici. Face à la maladie, que je connais trop bien, ma seule défense c'est le rire. Il a juste fallu coucher sur le papier ce que j'avais vécu. Les moments affreux comme les fous rires dans les situations les moins propices. Voilà, le ton du roman est donné. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce n'est pas une histoire larmoyante. Non, mais pleine d'espoir et de rire. Je vous le conseille absolument, vous allez adorer.
Et je pense que les titres que tu viens de choisir montrent bien que la littérature young adult, jeunesse, n'est absolument pas une littérature fade, édulcorée, pleine de bisounours. Au contraire, c'est plutôt une littérature qui permet de réfléchir à des thèmes profonds et de se préparer d'une manière cathartique, hein, comme l'expliquait Aristote, à la vraie vie, en fait.
Bah justement, pour moi, entre le young adult et le adulte, il n'y a pas beaucoup de différence, à part que le young adult, on arrive plus à s'accrocher dès le début. Et il y a peut-être plus de rire, c'est moins pessimiste. C'est ma définition de young adult.
Mais il faudra qu'on en reparle, c'est une définition intéressante. Et ben merci beaucoup Arthur pour ces chroniques qui nous donnent vraiment très très envie de nous retrouver à l'âge auquel on est sans y être, tout en étant l'âge que tu as, etc. Bref, de rajeunir un petit peu dans nos têtes. Merci beaucoup Arthur.
Merci Claire.
Ah ben on est quand même donc sur des thèmes très forts, hein, avec cette rentrée littéraire young adulte jeunesse. Et on continue parce que la rentrée littéraire des Voix du Livre, c'est du lourd. Aussi près, par exemple, Fanny, tu nous as concocté une sélection assez exceptionnel. Et c'était pas facile parce que je sais pas combien il y a de livres cette année. Plus de
500 et quelques. Boîtes, mais ça a été difficile de n'en garder que deux, donc j'en ai gardé trois. Désolée, j'ai pas réussi à faire moins parce que j'ai lu plein de bonnes choses. Donc voilà.
On a gardé que le meilleur du meilleur.
Trois, exactement. Je vais essayer d'être concise, du coup. Pour...
Et y aurait-il, par hasard, parmi ces trois, une publication de Jägermeister ?
Peut-être.
Bien,
quel suspense. Oh,
surprise totale.
Voilà.
On a très envie de savoir la suite.
C'est bon ? Je commence ? Alors, je commence par un livre qui s'appelle Ohio, écrit par Stephen Markley, qui est sorti aux éditions Albin Michel. Je commence par lui parce que c'est le roman, je pense, qui va être le plus difficile à conseiller et à résumer. Donc je vais quand même essayer, mais c'est l'histoire de quatre trentenaires qui, par hasard, se retrouvent dans leur ville d'enfance, là où ils ont passé leur scolarité ensemble. Et à partir de là, on est parti sur des flashbacks avec des histoires qui vont se superposer, où les souvenirs vont se croiser.
Ça s'entrelace, ça se répond.
Il n'y a pas vraiment de temporalité, on passe d'une année à l'autre.
C'est pas trop difficile à suivre ?
Non, parce que justement, en fait, l'intrigue, disons, c'est pas le plus important. Et c'est pour ça que le résumé comme ça, c'est un peu limité et c'est trop peu. Parce alors, que c'est beaucoup plus riche que ça.
Qu'est-ce qui est le plus important, si c'est pas
l'intrigue? Alors, il y a un paquet de choses qui sont importantes. C'est ce que j'ai mis, je l'ai mis en coup de cœur au Cyprès. Et sur le bandeau, j'ai écrit que c'était un auteur qui avait des choses à écrire et à dire. Et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'il est très pertinent. En fait, on peut dire que c'est un portrait assez honnête des États-Unis. Alors de l'Amérique profonde, mais j'aime pas trop ce terme-là, disons peut-être une Amérique un peu plus rurale, ça se passe dans l'Ohio justement, d'où le titre.
Oui.
Il y a pas de surprise. Et en fait, il aborde énormément de sujets. Et il va jusqu'au fond du sujet, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, il va dans le tréfonds de l'âme de chaque personnage. Il va parler de patriotisme chevronné. En fait, ça se passe quand ils étaient au lycée, ils ont vécu le 11 septembre. Et en fait, on va voir comment ça les a impactés tous. Ça parle aussi du coup d'antimilitarisme. Ça va parler de changement climatique. Ça va parler de violence, de drogue, d'homosexualité. C'est vraiment très dense.
Beaucoup de problématiques contemporaines, sociétales.
En fait, il déconstruit un peu tous les clichés qu'on peut avoir sur les États-Unis, enfin, c'est pas vraiment les déconstruire, mais il va les analyser plutôt. Et en fait, ce serait presque comme, vous voyez, les sitcoms américaines qu'on connaît tous, avec le footballeur blond, adulé de tous, la pom-pom girl, le rebelle. Enfin voilà, il prend tous ces personnages-là et c'est un peu l'envers du décor de ces sitcoms.
Donc il joue avec les clichés et les stéréotypes.
Ouais, exactement. Et c'est vraiment, c'est brillant en fait. Alors peut-être qu'il faut être un peu déjà intéressé par la littérature américaine, mais ça encore, ça peut passer, mais surtout être intéressé un minimum par la culture américaine et par l'histoire américaine pour peut-être être vraiment pris par le roman.
Sinon, on a un petit peu de mal à comprendre ou...
Oui, parce que justement, c'est plein de digressions, c'est plein de... On pourrait lui reprocher d'être bavard, par exemple. Moi, je sais pas du tout le reproche que je lui fais, mais je peux comprendre qu'on ait ce sentiment-là. Parce que moi, ça m'intéresse énormément, tous ces sujets-là.
Alors, il a une presse excellente partout.
Oui. Ouais.
Donc, je pense que peu de gens trouvent
Bavard. Je suis très contente. Mais j'ai lu ce reproche à pas mal d'endroits, justement, des gens qui avaient moins aimé. Parce que je vais tout le temps voir ce que les gens en ont pensé. Et là, c'est un peu un reproche qui revient souvent.
Mais en fait, c'est pas du bavardage.
Non.
C'est de l'analyse, c'est de l'approfondissement.
C'est aller au fond des choses. Et ça, je trouve que ça manque parfois dans certains ouvrages. Donc là, c'est intelligent, je pense que c'est le mot qui résume le mieux ce livre.
Ben, c'est quand même un magnifique mot pour
oui,
résumer
bah oui,
un
oui.
roman. Je ouais, crois qu'il apprécierait, ouais, ouais. très certainement.
S'il m'écoute un jour. Oui.
Et est-ce que l'autre roman de la rentrée est aussi intelligent ou est-ce qu'il a d'autres qualités?
Alors, l'autre roman de la rentrée, c'est en effet, quelle surprise, un roman des éditions Gallmeister.
Moi, je me demande, je ne m'y attendais pas du tout.
C'est un roman qui s'appelle Betty, qui a été écrit par Tiffany McDaniel. C'est son premier roman, elle a 32 ans, on est presque jaloux de autant de talent.
Au contraire, il faut admirer, il faut profiter.
Ah ben non, mais j'admire complètement.
Heureusement qu'il y a des grands talents
oui,
jeunes.
Oui,
qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, ça sera encore meilleur.
Je suis incapable d'écrire, donc je ne pourrais pas être jalouse d'un écrivain. Alors, c'est un livre on commence d'en parler un petit peu. C'est un livre qui commence de rencontrer le succès qu'il mérite parce que c'est, je pense, que c'est un livre qui va rester.
C'est, un futur classique.
Ouais, vraiment. Il a tout du classique parce que ça fait 700 pages. Mais c'est 700 pages qui se dévorent. Il y a aucun problème. Je l'ai lu, je sais pas, en deux jours. Enfin, vraiment, j'ai pas pu décrocher. Ça se lit tout seul. C'est l'histoire de Betty, qui est une petite fille. Ça se passe dans les années 60. Elle est fille d'un... Son papa est Cherokee, sa maman est américaine. Et elle vit dans une famille de 7 ou 8 frères et sœurs, je ne sais plus exactement, une famille nombreuse. Et tout simplement, le livre, c'est l'histoire de sa vie.
Tout simplement.
Ouais,
c'est pour ça que ça fait 700 pages.
Voilà, mais parce que c'est tellement complexe.
Une vie, c'est toujours complexe.
Voilà, mais on est souvent dans le... Enfin, souvent. C'est une famille qui connaît des drames, comme ça peut arriver parfois. C'est assez universel dans ce sens. Betty, c'est une petite fille qui a hérité, qui est la seule de sa famille à avoir hérité des traits marqués, on va dire, Cherokee. Donc elle a les cheveux très très bruns, elle a la peau très foncée. Et du coup, l'auteur aborde aussi le racisme qu'il peut y avoir à cette époque-là et encore aujourd'hui envers les Amérindiens. Donc ça donne envie aussi d'aller voir plus loin sur cette histoire des natifs américains. Mm-hmm. C'est un livre qui est poignant. Moi, j'ai pleuré à la fin. Ça m'arrive très rarement, mais voilà, j'ai été vraiment très, très émue par cette histoire. C'est tout le long, on va avoir des contes, des légendes Cherokee. C'est plein de poésie. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique.
C'est très riche.
En fait, c'est un livre que j'ai l'impression qu'il met tout le monde d'accord. On ne peut pas ne pas aimer ce livre. Je comprends pas le. Enfin, il y a pas de reproche à lui faire. C'est excellent de bout en bout. C'est une histoire, voilà.
C'est parfait. Donc le futur classique de 2030.
Qui va rester, je pense. et pour finir, un roman d'un auteur français, pour changer un petit peu, qui s'appelle Fabrice Capizzano. C'est sorti au Diable Vauvert. C'est son premier roman.
Et moi, c'est un roman très heureux, je crois.
Oui, ouais, c'est vraiment mon chouchou de la rentrée. C'est un livre... L'histoire est assez simple, c'est l'histoire de Tom, qui est un musicien, un trentenaire, un petit peu perdu, qui retourne vivre chez ses parents dans le Vercors, oui, pour écrire ses chansons, se mettre au calme.
C'est il une va bonne rencontrer... idée d'aller dans le Vercors,
oui,
c'est
ça agréable. Donne envie, oui. Ça donne envie de c'est visiter très beau, le Vercors, ça a l'air vraiment très beau en effet. Et il va rencontrer Marie, qui est la voisine de ses parents, qui est apicultrice. Et c'est un peu un coup de foudre et ça va être du coup une histoire d'amour un peu folle, mais dans tous les sens du terme.
Oui, c'est pas un roman à l'eau de rose.
Pas du tout.
C'est pas la romance
du tout,
de l'automne.
Du tout. Mm-hmm. Non, ça, mais ça reste une très très belle histoire d'amour. C'est un livre qui est extrêmement coloré parce que le personnage principal, Tom, a la capacité de voir les couleurs des gens. Donc, il voit la couleur des sentiments, la couleur des auras des gens. Donc, c'est
ah oui,
coloré
même.
Dans ce sens-là parce mm-hmm. On passe par toutes les couleurs possibles et imaginables. C'est un roman qui est très frais. C'est un roman qui donne vraiment envie de vivre. En le refermant, vraiment,
ça, c'est une qualité exceptionnelle.
Ouais, il y a une énergie qui est vraiment très, très belle. Je pense qu'on connaît tous un Tom. Voilà, on se sent très proche de tous les personnages. Et puis, c'est vraiment... Tous les personnages sont attachants. Il y a le père de ce jeune homme qui est absolument... qui est colérique, qui est acariâtre, qui est presque détestable, mais on peut pas s'empêcher d'avoir de la tendresse pour lui.
Et il a des couleurs aussi, ce
oui,
père.
Oui, alors je me rappelle
ça
plus l'un des couleurs,
chose, des couleurs du père.
Non, c'est moi j'adorerais recevoir l'auteur à la librairie, donc voilà, je vous tiendrai informé.
Mais c'est une excellente idée.
J'ai adoré.
Donc voilà. Un roman qui fait voir la vie sous ses plus belles couleurs,
mais, oui, mais
sans
pas
être,
que,
sans être
pas
rose.
Pas que, parce que c'est aussi parfois un peu sombre. Ce Tom, justement, traverse des périodes qui ne sont pas évidentes. Il est plein de doutes. On se retrouve pas mal aussi, peut-être... enfin, on peut se retrouver, en tout mm-hmm. cas, dans ce personnage.
Oui, de toute façon, au Diable Vauvert, je ne m'attendais pas à une romance...
Non.
Ça, c'est sûr, ce n'est pas ce genre d'éditeur.
C'est très profond. Et puis, il y a aussi un petit détail, c'est que l'auteur est... apiculteur dans le Vercors, ça, mm-hmm. voilà. Mais il est également musicien. Et il écrit des textes, mais ça se ressent dans son livre. C'est une écriture qui est très inventive. Il joue vraiment avec les mots, il y a pas mal de jeux de mots. Alors des fois, c'est peut-être un peu poussé s'il y avait vraiment un reproche à lui faire, mais
Il faut vraiment
chercher un reproche à lui faire.
Donc bon, un seul, c'est qu'il joue parfois peut-être un tout petit peu trop avec les mots.
Un
mais
peu
bon,
trop.
Mais il faut être réceptif un peu,
ouais,
un peu d'ouverture.
C'est pas grave du tout.
Voilà. Donc on va clôturer en beauté sur ce texte qui donc donne envie de vivre.
Ouais.
Excusez du peu.
Oui.
Eh ben, merci beaucoup.
Avec plaisir
pour ce trio, ce tiercé gagnant à lire et à savourer. Mais la rentrée littéraire, c'est aussi la rentrée de la poésie avec l'étonnante et profonde Edith Azam. Nous la retrouverons juste après la pause musicale, une chanson de Loïc Lantoine, choisie par l'autrice, que je vous laisse découvrir pour vous donner un avant-goût de l'entretien qui va suivre.
1, 2, 3, 4. Thank you. caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Ma vie devant, devant ma vie, les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. J'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire.
Bien sur Bac FM. Nous sommes de retour dans Les Voies du Livre, votre émission littéraire mensuelle.
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Edith Azam, poète, et de l'interviewer à l'occasion de sa venue à la librairie Le Cyprès Jean de la Lune pour une rencontre avec le poète Régis Lefort à l'invitation des éditions La Tête à l'envers. Bonjour Edith Azam.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous avez choisi une musique assez rare et originale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Pourquoi ce choix?
Alors, Loïc Lantoine, je l'ai découvert, on va dire ça, en tout cas vu sur scène avant le confinement, la veille du confinement. Et ouais,
le meilleur moment.
Mais en tout cas, c'est il était avec son contrebassiste et j'ai trouvé le duo très émouvant. C'est vraiment c'est une belle partition qu'ils font, c'est très humain et ça m'a secouée. Je suis sortie de là avec en me disant ouais, c'est généreux, c'est honnête, c'est juste et ça parle à tout le monde et j'aime bien me dire qu'on peut parler à tout le monde en fait. Je crois que c'est super important et je trouvais que c'était tendre et déchirant aussi. Avec, c'était humain, quoi. C'était ouais, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. On va bien beaucoup le revoir.
Alors vous venez de publier un recueil au titre énigmatique "Bestiole-moi pupille". Dès le titre, le ton est donné. Votre terrain de jeu, c'est la langue, votre matériau de travail. Chez vous, la nature des mots est labile. Un nom devient un verbe devient un nom, pour pousser la langue dans ses retranchements. Alors, forcément, on a tout de suite envie de vous demander, quel est votre rapport à la langue?
En fait, je dissocie deux choses, la langue et le langage. Pour moi, le langage, c'est toutes ces choses compressées qu'on a à l'intérieur qui fait que finalement, on parle tout le temps. Dans sa tête, on parle tout le temps. Quand on est chez le docteur, dans la salle d'attente, on parle. Quand on va faire les courses, on parle. On se raconte tout, n'importe quoi. Ça passe du coq à l'âne. Et puis, toute cette tension, la langue, la forme et les mots choisis, donc le fond, on va dire, permettent d'extraire... sont les outils. Je pense que pour moi, ce sont les outils pour aller chercher plus loin ce qui est de l'ordre du langage, donc de l'ordre plus animal, en fait, je pense. On est d'abord des animaux humains, mais des animaux. Et la langue a peut-être ses limites parce que des fois, il n'y a que le silence ou le cri qui peut vraiment dire comment la chose de vie nous cabre ou nous... Ou au contraire, nous fait galoper, j'en sais rien. Voilà.
Donc pour vous, le langage est vraiment différent de la langue?
La langue, c'est un code. Le langage est plus à vif. Et la langue nous permet peut-être d'extraire un petit peu, donc de décharger des choses qui seraient trop fortes sinon. Mais et je pense que peut-être que la limite de la langue pour moi, c'est quand elle est l'outil parfait. Parce que les outils sont toujours au service du pouvoir de manière générale, et quand ça devient au service du pouvoir, c'est peut-être là qu'on n'est plus juste avec l'animal humain, mais c'est-à-dire aussi profondément ancré dans quelque chose de plus grand, le cosmos, la relation aux étoiles, aux animaux, enfin...
Le pouvoir dont vous parlez, c'est le pouvoir créatif?
Non, je pense qu'au bout d'un moment, parce que l'homme est peut-être fait aussi avec... des déviances ou des excroissances, des mesquineries, et que la langue, les gens qui ont le pouvoir se sont aperçus que c'était la première des choses pour asservir de façon insidieuse les gens, et donc forcément ils la maîtrisent très très bien, mais ils sont pas pour autant, ils se servent pas de la langue pour être en contact avec eux-mêmes ou en contact avec l'autre, mais pour faire un jeu de qui, de pouvoir, de... voilà.
Oui, donc pour vous, la langue, c'est plutôt un moyen d'avoir du pouvoir presque sur soi-même, de pouvoir aller au fond de soi, quelque part.
Voilà, avec les côtés positifs, on peut aller au fond de soi et dire quelque chose qui est juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis du plus grand que soi, et on peut être aussi coercitif vis-à-vis de... ou juste vis-à-vis de l'autre, ou coercitif, enfin... Après, on ne sait pas trop ce qu'on fabrique avec la langue, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que la langue est en vie, c'est aussi un petit animal, je pense, la langue en nous, et qui se faufile. C'est pour ça que la psychanalyse est quelque chose d'absolument fabuleux, et c'est génial qu'il y ait eu la psychanalyse qui ait permis de comment s'intéresser à la langue en tant que matériau, et là où elle nous échappe, hop là, savoir que ça, ça veut dire ça, savoir que si, ça veut dire autre chose, et que quand est-ce que c'est qu'on est piégé par soi-même ou par l'autre, finalement, ou au contraire, qu'on est en plein... C'est pas très clair, peut-être. Hein, ce que...
Ah si, on comprend qu'il y a une communication, en tout cas, entre soi-même et soi-même, ou soi-même et l'autre. Et alors, ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est que on pourrait s'attendre à ce que, justement, vos textes soient hermétiques, puisque vous changez la nature des mots, mais qu'ils soient difficiles à comprendre, mais en fait... C'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous faites, dans vos textes, éclater les limites du sens, tout en laissant les textes des vecteurs très clairs de communication. Le langage est parfaitement clair. Et les mots que vous utilisez permettent d'aller un petit peu plus au fond, justement. Donc, sans perte de sens, une telle langue, comment est-ce que vous la travaillez? Quelle est votre technique pour vous mettre à écrire et pour créer des mots, les creuser comme ça, remonter jusqu'à leurs racines profondes, pour leur faire dire tout ce qu'ils ont à dire, et ce que nous, pauvres non-poètes, n'arrivons pas à en extraire. Quelle est votre technique de création et de détournement des mots?
Alors, je travaille, donc je pense que je suis très concentrée. Une concentration qui permet aussi une forme de lâcher prise. Tout comme quand le tennisman il court après sa balle, il n'a plus que la balle... dans son champ de vision ou dans son geste, mais il n'est pas en train d'analyser son geste au moment où il fait son revers ou son coup droit. Il y a quelque chose qui... Et ensuite, je pense qu'il y a dans la concentration une forme d'innocence qui peut naître. Moi, je suis fascinée par les gens qui bégayent ou qui zozotent ou tototent, parce que je trouve qu'il y a une façon de prendre... En tout cas... Peut-être pas pour eux de prendre la langue, parce qu'on le vit souvent comme un handicap, mais en tout cas pour moi, de la recevoir avec une C'est pas grave de se tromper dans la langue. C'est pas grave de la faire vivre. C'est pas forcément trébucher et tomber. C'est peut-être des fois... pas de côté, en fait.
Pour vous, l'imperfection fait partie de la langue.
Le désir, c'est jamais parfait. Enfin, ou c'était tellement parfait, mais c'est hors norme. Il faut l'assumer, son désir. Et dans la langue, il y a quelque chose de... Quand on se lâche prise et qu'on se laisse revenir comme les enfants, quand ils babillent au départ, qu'ils font blablabla, ils explorent quelque chose qui est de l'ordre du bruit, de la salive, de la mastication, d'une émotion. Parce que la langue, c'est aussi un tempo, d'abord un rythme et... C'est d'abord du langage, en fait. La langue, c'est d'abord un cri qu'on essaie de canaliser pour lui donner forme et que l'autre puisse s'en charger aussi, en fait. Ou porter un petit peu avec nous.
Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de vous voir lire, je voudrais préciser que vous avez une manière très incarnée de lire vos textes. Et là, pendant que vous me parlez, vous faites beaucoup de gestes qui ne sont évidemment pas perceptibles à la radio. Mais on sent dans vos lectures et dans votre manière de vous exprimer un engagement fort du corps, une action presque organique. Vous êtes dedans, un peu comme dans un rôle que vous auriez créé vous-même. Et par exemple, dans Bestiole moi pupille, il y a de vrais personnages. Comment construisez-vous vos personnages?
Alors là, je pense que ça fait partie de toutes ces choses qui m'échappent au moment d'écrire. Je pense que... Je sais même pas si on me demandait d'expliquer ce qui se passe dans ce livre, Bestiole moi pupille, je sais pas trop ce que je raconterai, ou si j'en raconte quelque chose, c'est de suite très plat. Ce qui m'intéresse, c'est plus la musique des choses que j'écris et la sensation intérieure que le fait de savoir si c'est Bestiole qui fait la cuisine et pupille qui trouve ça bon ou pas bon, et puis etc. J'ai l'impression que ce qui se passe dans mes textes, la chose qui est vraie, c'est dans la manière de lire la tension. Après, ce qui est raconté, je pense que quand il y a une belle tension et que j'y suis juste, peut-être que ce qui remonte est plus juste. C'est-à-dire les mots qui s'emboîtent les uns aux autres ou les personnages qui... Peut-être que c'est plus juste aussi, mais ils ont leur vie indépendante. Ce n'est pas ce que je cherche à dire quand j'écris.
C'est un processus qui s'auto-entretient, qui s'auto-génère.
Je comprends mieux, mais pas rationnellement. C'est-à-dire, je n'ai pas de plan, mais quelque chose en moi, je ne sais pas, le cerveau, la vigie, un morceau de mon cerveau, on va dire, prend soin d'une certaine cohérence. Mais je ne sais pas comment, et c'est sans me poser la question de... De toute façon, après, il y a tout un travail de coupe, et puis... Je sais pas, à ce moment-là d'écrire, je fais confiance à quelque chose qui n'est pas moi.
Qui est en vous, mais qui n'est pas vous.
Ouais, sans doute.
Alors justement, quelles sont les étapes de votre écriture? Vous venez de nous dire, de nous expliquer quelle était plus ou moins la première, et vous évoquez une deuxième étape qui serait les coupes. Comment vous procédez pour choisir? Parce que il faut bien que vous ayez envie de donner un certain sens, ou bien est-ce que ça se fait également de manière un peu instinctive?
Alors me relire, c'est quelque chose de très dur. J'ai horreur de ça. Et c'est pour ça que quand je fais les lectures publiques, je m'attache le rythme, je n'oublie jamais de l'écriture qui varie d'un livre à l'autre. Mais ce qui est dit, j'aime pas y faire face parce que ça appartient à je sais pas quoi, un peu de moi, mais peut-être que ça appartient à... J'ai pas envie que ça m'appartienne. Enfin, j'en sais rien. Ça, il faudrait que je fasse trois autres psychanalyses ou je sais pas trop quoi.
Allongez-vous.
Ah ben oui, voilà.
Alors malheureusement, je ne suis pas capable de le faire puisque je ne suis pas psychanalyste. Mais donc, les coupes, ça n'est vraiment pas la partie que vous préférez.
Ou je couperais tout, ou je couperais rien. En général, c'est plutôt tout. Mais il y a des choses, des fois, que j'écris où je me dis, waouh, j'ai pu écrire un... C'est pas beaucoup, hein, c'est genre un vers ou deux vers qui se suivent. Écrire,
c'est déjà pas mal.
Nécrosité mentale, je sais pas où je l'ai trouvé, mais ça me semble complètement juste. C'est peut-être ça qui se passe. C'est des lambeaux qui tombent, et puis tant mieux, des fois ils sont bien recueillis. Mais en fait, je crois qu'il y a des choses que je coupe parce que ça, c'est aberrant et on peut les couper. Je les ai déjà dites plusieurs fois avant d'arriver à les dire d'une manière qui soit juste, justement. Il y a des choses que je coupe aussi, parce que des fois, on se dit, oh, ça passera, c'est pas grave. Mais en fait, on sait très bien que ça passe pas, qu'on n'y était pas, et que si, c'est grave. Et après, j'essaie de m'appliquer. Bon, Agnès, ma compagne, elle m'aide, elle fait relecture, elle me dit, taratata, et des fois, c'est... je me dis, oh, ça va passer, mais si elle le pointe, je raye de suite, j'ai aucun problème à me rayer, en fait. Voilà.
Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, finalement.
Moi, je dirais oui et non, d'un côté.
Quelle était la taille de Bestiole Moi Pupille avant, avant les coupes? Parce que là, il est
Il
relativement fin.
Boule.
Ah oui, quand même.
Ah oui, au moins.
Ouais. Donc, vous avez été sans pitié.
Oh ben, ça va, je me pardonne. Après, ça me fait rire. J'ai pas mal de... J'ai beaucoup d'humour, on dirait pas des fois quand on me lit. Même souvent, on me dirait pas. Mais en fait, de moi à moi, la vie est drôle avec moi. Oui.
Voilà. Je précise pour les auditeurs que la compagne d'Edith Azam est à côté. Également le chien. Oui. Nous avons beaucoup de chance, tout le monde est au complet. Alors, votre écriture, vous l'avez souligné tout à l'heure, s'attache particulièrement alors au rythme, mais aussi aux sonorités, que l'interprétation fait particulièrement ressortir, l'interprétation quand vous lisez. Mais justement, moi je voudrais bien savoir si quand vous écrivez, est-ce que vous prononcez les mots? Est-ce que vous les goûtez? Est-ce que vous les testez? Est-ce que vous essayez leur sonorité avant de les coucher sur le papier? Ou est-ce que ça parle dans votre tête? Vous avez évoqué tout à l'heure des voix, en quelque sorte, dans la tête. Vous oralisez ou non?
J'ai plutôt des voix, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai... Mais en fait, c'est parce que... Au départ, j'écrivais en alexandrin. Et en alexandrin, ça fait ta 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 ta. Et puis un beau jour, enfin, après avoir écrit beaucoup d'alexandrin, sans doute, ce que je me raconte, en tout cas, qu'un jour plus énervé qu'un autre, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai peut-être fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et... Enfin... Je suis toute seule devant le micro, mais peut-être qu'il y a quelque chose. En fait, la langue, elle est vraiment rythmée. Et ce qu'il y a de rigolo, en fait, c'est pas du tout pareil. On est dans une librairie, je cherche un livre. Si je dis Kafka, le verdict à la colonie pénitentiaire, si je dis le verdict à la colonie pénitentiaire, ou si je dis le verdict à la colonie pénitentiaire. Nitentiaire ou... Et en fait, cette musique-là, rythmique, me vient assez vite. Et je pense que ça donne une couleur pour moi qui permet de sculpter des mots autour qui font que si le rythme est très haché et très tendu, ben, il y aura entre guillemets une histoire, guillemets, parce que c'est pas trop... plus tendu que si c'est un rythme plus souple.
Le rythme fait vraiment partie intégrante de votre écriture.
Oui, et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup m'en débarrasser aussi parfois.
C'est-à-dire ?
Parce qu'en fait, je me dis que peut-être aussi, ça me... Alors, c'est certain que ça me permet un paravent, et quand je dis que quand je lis, je ne fais pas du tout attention. Je connais très bien, très vite mes textes, parce qu'il y a le rythme, mais je n'aime pas faire appel au sens. Et... Ça me dit que peut-être si j'avais une écriture moins rythmique, ben ça me permettrait peut-être de fouiller, d'approcher autrement la langue, mais peut-être que j'en ai peur et peut-être que c'est mon carcan, peut-être. Mais bon, après, une prison dorée, peut-être, je sais rien.
Peut-être que ça va vous faire comme les alexandrins où vous avez tout d'un coup... Oui. Bien peut-être que là, vous allez sortir du rythme.
J'aimerais beaucoup. Des fois, je le déteste, le rythme. Parce que je le retrouve tout le temps et...
Il a quelque chose d'obsédant?
Non, c'est peut-être pas que ce soit obsédant, c'est que je me dis que il est peut-être trop court et que je voudrais pouvoir faire des longues phrases et essayer de... Alors des fois j'essaie de faire, genre je me prends pour Proust et j'essaie de faire des longues phrases, mais Proust il a son rythme, alors après... Et en fait, c'est compliqué en fait, et peut-être qu'en fait, c'est pas le rythme qu'il faudrait que je revoie, mais que c'est autre chose, le vocabulaire, j'en sais rien, en fait. Et peut-être rien du tout, enfin, je fais comme je peux, et puis c'est déjà pas mal.
Ce sera peut-être dans le prochain recueil, le prochain opus.
Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup, Edith Azam, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et j'invite tous les auditeurs à lire « Bestiole-moi, pupille », publié aux éditions « La tête à l'envers ». Le mois prochain, nous recevrons Mercedes de Ambrosis pour la parution de « Rendez-vous au paradis » aux éditions « Du chemin de fer ». Rendez-vous donc le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.